Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Alors que l'année 2023 touche bientôt à sa fin, je suis ravie de vous retrouver pour plonger dans un univers qui promet d'être enivrant, celui des spiritueux. Qui dit fête du nouvel an dit souvent verres qui s'entrechoquent gaiement et listes à rallonge de bonnes résolutions. S'il y en a bien une qui pourrait tenir, ça pourrait être celle de boire de façon plus responsable en 2024, n'est-ce pas ? En tout cas, on peut dire que les Françaises et les Français sont friands de spiritueux. La France est le premier pays consommateur de whisky. Avec le rhum, ce sont les deux spiritueux les plus appréciés des Français, les boissons anisées arrivant en troisième position. Toutefois, derrière chaque verre qui se lève, il y a des enjeux sanitaires et écologiques que l'on ne peut pas négliger. Une étude Ipsos sortie en 2022 montre qu'il y a une tendance à consommer moins mais mieux. Les premiers freins à la consommation qui ressortent sont le goût et le prix. Les facteurs sanitaires et environnementaux n'apparaissent donc pas comme les plus préoccupants. Pourtant, l'alcool est la deuxième cause de mortalité prématurée en France et une des premières causes d'hospitalisation. La consommation d'alcool aurait un coût social proche de 118 milliards d'euros par an, soit presque autant que le tabac. D'un point de vue environnemental, l'étude a mis en avant le fait que les principales attentes des consommateurs à l'égard des entreprises productrices étaient relatives à la réduction du gaspillage et des déchets. Pourtant, la production des spiritueux soulève de nombreuses autres questions, au niveau du transport par exemple, ou de la grande quantité d'eau nécessaire à la production. Pour faire le tour de la question, je reçois Luca Pandolfo, fondateur de L'Argotier. L'Argotier propose des cocktails aux saveurs originales, bio, avec des produits locaux, un packaging éco-responsable et fabriqué en Île-de-France. Une offre qui contraste avec les cocktails classiques à base de spiritueux. Salut Lucas.
Salut, bonjour, bonjour.
Est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît ?
Bien sûr, donc moi je suis Luca Pandolfo et du coup je suis le fondateur d'Argotier Cocktail.
Et dis-moi comment t'en es venu à fonder L'Argotier ?
Alors c'est très simple, moi j'ai fait toute ma carrière dans la restauration. Sortie de collège, je fais BEP, Bac Pro BTS en école hôtelière. Et je suis recruté tout de suite par Marriott en tant que chef de bar, donc très jeune. Et je commence à m'ennuyer un peu dans ce métier un peu redondant avec des horaires un peu décalés. Je faisais 17h, 2h du matin tous les jours. Ça me décalait. J'avais plus de vie sociale. Et du coup, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais et de partir à l'étranger. Donc, je suis parti en Australie pendant 6 ans, où j'ai eu des opportunités que j'ai saisies. Donc, j'ai ouvert des bars, j'ai ouvert des restaurants, j'ai gagné des concours de cocktails. Je suis devenu mixologue à proprement parler en Australie.
Tu t'es formé pour ça ou tu t'es formé sur le tas?
Via l'école hôtelière, je me suis formé sur les classiques, donc sur la coupe Scott. Mais le monde du cocktail qu'on apprend à l'école est complètement différent du monde du cocktail qu'on pratique sur le terrain.
D'accord. Pourquoi?
Parce que c'est un peu vétuste. C'est un peu des classiques qui sont plus trop en accord avec les goûts contemporains.
Comme quoi?
Comme le Porto Flip, par exemple, qui va être un cocktail avec du Porto et du jaune d'œuf, qui se vendrait jamais aujourd'hui. En revanche, là, on a quand même une vraie tendance sur la création, sur des nouvelles saveurs, type la fleur de sureau, par exemple, qui est extrêmement tendance en ce moment et qui n'existe dans aucun cocktail classique de la coupe Scott. Voilà, pour un exemple un peu parlant. Du coup, je me suis formé au métier de mixologue. Donc la différence entre un barman et un mixologue, un barman va plutôt appliquer des recettes déjà existantes, un mixologue va rentrer dans une création et aller travailler sur différentes étapes de saveur, une vraie expérience pour le client, que ce soit visuel, que ce soit sur les matières qu'on va utiliser, que ce soit sur la consistance, que ce soit sur les étapes de dégustation. Donc on pourra en parler quand on viendra parler des recettes à Argotier. C'est un peu comme ça que j'ai pensé les recettes.
Okay.
Qu'elles soient simples à déguster, mais en même temps assez complexe pour apporter un peu de piment.
Mais de là à entre être mixologue et créer l'argotier, qui explique nous ce que c'est que l'argotier peut-être, ouais, et cette démarche de l'argotier, comment c'est venu ?
Eh ben, du coup, je rentre d'Australie. Donc avec un passé de barman où j'étais, enfin de mixologue où j'étais assez, on va dire, populaire via, parce que l'Australie c'est un tout petit pays, hein, finalement il y a 22 millions d'habitants sur un pays qui est plus grand que l'Europe. Donc les noms circulent vite et donc j'avais vraiment pris confiance dans mes skills de mixologue. Je décide de rentrer en France et je prends un poste de manager au Chalet des Îles, où la grosse problématique, c'était d'envoyer des cocktails. Donc au Chalet des Îles, c'est des services de 500 couverts par service, avec généralement un barman et beaucoup de saisonniers. Et donc j'ai décidé de venir préparer les cocktails en amont, pour ensuite les mettre à disposition du staff. Le staff a pris confiance et ça a commencé à exploser. Du coup, faire des bons cocktails, je trouvais ça bien, mais faire bien des bons cocktails, je trouvais ça mieux. Et du coup, on est allé très loin dans la démarche éco-responsable, avec des problématiques de société aussi, avec du commerce équitable, avec un packaging qui est sourcé en circuit court aussi. Donc, on a vraiment pris tous les points qui composent une bouteille, le liquide, et on est allé chercher la solution qui avait le plus de sens à nos yeux pour faire des bons cocktails bien.
T'étais sensible à ces enjeux-là ?
J'étais sensible à ces enjeux-là. Ça faisait vraiment sens pour moi de sauver la planète en faisant la fête. Je trouvais ça, très rigolo. Et je trouvais que ça faisait sens de même sur un point de vue de l'économie. Moi, j'ai toujours penser que la microéconomie c'était un peu la solution, de faire travailler des acteurs qui sont à côté de chez toi, c'est toujours mieux que faire venir les produits de l'autre bout du monde, et de connaître le producteur c'est encore mieux, que ce soit sur un point de vue environnemental comme un point de vue économique.
Alors on va essayer de décrypter ce que sont que ces spiritueux et leur enjeu. Déjà, est-ce que tu peux nous définir un spiritueux ? Qu'est-ce qui distingue un spiritueux des autres boissons alcoolisées ?
Alors, un spiritueux, c'est le résultat d'une distillation, tout simplement. Donc, le principe de la distillation...
Donc, ce n'est pas une fermentation ?
Il y a une partie fermentation. Pour créer de l'alcool, il faut de la fermentation. Donc, on va prendre l'exemple du gin, par exemple. Le gin, c'est un alcool de grains, donc de grains de céréales, qui vont être mis en fermentation, donc avec des levures. Ça va dégager du sucre. Les levures vont manger le sucre et ça va transformer de l'alcool. Ensuite, l'alcool s'évapore à 70 degrés. Donc, on va chauffer ce résultat à 70 degrés. Donc, l'alcool va s'évaporer. Il va passer dans l'alambic. Il va passer dans l'alambic et il va se refroidir et il va devenir liquide. Donc, il va sortir à l'autre bout de l'alambic autour de 80-90%. Et ensuite, on va rajouter de l'eau pour le diluer, pour avoir un gin qui va titrer à 40%, 44%, peu importe.
Et qu'est-ce qu'on appelle du coup la distillation ?
La distillation, c'est ce principe de séparer l'alcool de l'eau.
Ah, ok.
Tout simplement.
J'entends. Comment tu expliques que les Français, ça soit des grands consommateurs, notamment du coup de ces spiritueux, particulièrement du whisky et du rhum ? Moi, ça m'a vachement surpris ces chiffres sur le whisky.
Ouais, ça me surprend parce que ça me surprend et ça me surprend pas en même temps parce que bah, je pense qu'il y a malheureusement une grosse culture du whisky coca en France. Et
ah
du
ouais.
Rhum coca. Bah, faut savoir que un des articles les plus vendus chez Carrefour, tout article confondu, c'est le William Peel.
Incroyable.
Qui est un whisky qui est de très très basse qualité, qui est pas cher. Mais les jeunes, avec cette culture du binge drinking, vont aller à fond sur ce genre de produits. Après, il y a effectivement, il y a beaucoup d'amateurs de bons whisky qui vont plutôt être bu sec en dégustation. C'est un des cadeaux de Noël les plus faits, un des cadeaux de fête des pères les plus faits. Une bouteille de whisky au papa ou au grand-père, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent.
Donc c'est encore très genré, la consommation de spiritueux.
Ouais, à mon grandin, parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime pas trop, moi. Parce que on avait tous cette idée, le vin blanc c'est pour les femmes, le vin rouge c'est pour les garçons. C'est complètement faux. Mais en dégustation, j'ai souvent ça c'est un cocktail féminin, ça c'est un cocktail masculin. Alors que j'aime pas du tout sexualiser un cocktail, parce que c'est pas vrai déjà. Moi je le vois tous les jours. On a une recette qui s'appelle le velours avec vodka bio française, crème de mûre, crème de cassis, donc qui est rose, qui est un cocktail à base de vodka, donc qui est dans l'inconscient des gens un cocktail féminin. Mais dans la réalité, c'est 50-50. Enfin, il y a aucun problème. Donc oui, dans l'inconscient des gens, il y a toujours cette sexualisation un peu du spiritueux, les alcools blancs pour les femmes, le vin blanc pour les femmes, le vin rouge pour les garçons et les whisky pour les filles. Enfin, pour les garçons. C'est un peu dommage, mais ça évolue. Okay. Ça évolue. Okay. Moi, je connais plein de filles qui boivent du Negroni et oui, qui boivent des whisky. Donc peut-être dans le monde du bar, mais...
Je voudrais qu'on parle des enjeux écologiques. Spiritueux et écologie ne riment pas forcément. Mais quand même, on voit apparaître des alcools français et bio. Je voudrais, avant qu'on parle de cette émergence des alcools français et bio, que tu nous expliques du coup comment tu as fait, toi, pour sourcer tes alcools. Je voudrais qu'on décortique les principaux postes de pollution des spiritueux. Qu'est-ce qui a le plus d'impact ? C'est, j'imagine, le mode de production ?
Mode de production, je dirais pas. Moi, alors si on prend les questions dans le bon sens, je parle d'argotier, et ensuite, ensuite je parle de notre engagement, un des engagements forts qu'on a. Donc argotier, du coup, on développe des cocktails prêts à boire de manière artisanale et éco-responsable. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. Tous nos sirops, on les fait maison. Donc on va acheter du sucre bio qui est issu de betteraves qui sont cultivées dans les Hauts-de-France. Et qui sont raffinés dans le 77. Donc là, on a mis vraiment le circuit court et le bio au centre de la réflexion du sirop. Le fait de faire nos sirops maison, ça nous donne la possibilité d'être très créatifs et ça nous donne surtout une maîtrise du taux de sucre. Parce que comme vous le savez, les agrumes sont toujours différents, l'acidité est différente. Ça nous permet aussi de venir un peu jauger, de venir équilibrer nos cocktails sans trop mettre de sucre. Ensuite, tous nos jus, tous nos légumes, toutes nos herbes sont pressés à froid et stabilisés directement dans l'alcool. Toutes nos liqueurs sont françaises, absolument toutes nos liqueurs. Et tous nos spiritueux sont choisis pour leur qualité gustative, bien évidemment, mais aussi et surtout pour leurs engagements sociaux et co-responsables. Et c'est là où je vais parler du poste, pour moi, le plus polluant dans le monde du spiritueux et de la boisson en général, c'est le packaging.
Ah oui ?
C'est en 2020, c'est 700 milliards de bouteilles en verre qui ont été produites. C'est énorme. C'est quand j'ai regardé ces chiffres, j'étais halluciné. Et pour recycler une bouteille, c'est 75% de l'énergie qu'il faut pour produire une bouteille en verre. Donc pour moi, c'est vraiment ça le poste le plus.
Mais ça veut dire que tes bouteilles là, elles sont consignées ?
Nos bouteilles, elles sont 75% à base de verre recyclé. Déjà, donc c'est pas mal. Et on est en train de mettre en place la consigne. Donc on est une jeune société, on a un peu plus de 2 ans. Mettre en place la consigne, ça veut dire beaucoup de logistique. Ça veut dire beaucoup de packaging aussi en PET, par exemple, parce qu'il faut des caisses pour transporter les bouteilles. Ça veut dire beaucoup d'émissions de gaz, parce qu'il faut aller récupérer les bouteilles à un endroit pour les amener à un endroit B, pour les ramener à un endroit C, pour les réenvoyer à l'endroit A. Donc c'est beaucoup de logistique et le véhicule électrique n'est pas encore complètement démocratisé, ça commence. Nous, toute notre logistique, on l'a fait en véhicule électrique, mais pour l'instant, les prestataires qu'on a, ils ne travaillent pas comme ça. En revanche, ce qu'on a mis en place, c'est une autoconsigne chez les clients. Et ça, pour moi, c'est la solution la plus écologique.
C'est-à-dire
qu'on va vendre une caisse de 6 bouteilles, donc de bouteilles à 75% à base de verre recyclé, avec des étiquettes en bagasse, qui est un déchet industriel de canne à sucre, colle hydrosoluble qui va permettre au restaurateur de laver ses bouteilles s'il le souhaite, ou au prestataire qui va nettoyer les bouteilles, de laver les bouteilles très facilement. Mais ce qu'on met en place, c'est qu'on va lui vendre des recharges en vrac qui va réutiliser pour remplir ses bouteilles au fur et à mesure. Donc lui, il va commander 6 bouteilles et ensuite, il va nous commander des récipients de 5 litres qu'on appelle des gourdes pour remplir ses bouteilles.
Qui sont en quelle matière ?
Qui sont en plastique recyclé et recyclable. Ça, pareil, c'est une solution qu'on a pris très rapidement aussi pour contrer l'inflation l'année dernière. Ça nous a permis de faire une remise de 5% sur le prix au litre alors que tous les prix étaient en train d'exploser. Donc on l'a fait un peu au pied levé, mais c'est une solution qui marche très très bien parce que ces emballages sont aussi réutilisés chez les restaurateurs parce que ça leur permet de stocker de l'huile, ça leur permet de stocker plein d'autres matières, des produits nettoyants, des choses comme ça. Et là, on est en train justement en plein de recherche et développement pour trouver un packaging qui soit le plus écologique possible et le plus léger possible.
Mais ça ressemble à quoi du coup ? C'est une poche dans laquelle...
C'est ça, c'est un bib.
Ok.
Appelons ça un bib.
Et ils le re-remplissent derrière ?
Non, là, pour l'instant, c'est des bidons.
Ah, okay.
Et là, on va aller travailler sur du bib. Donc
okay.
avec une poche qu'on est en train de sourcer qui va être le plus écologique possible. Et par contre, le carton autour va être recyclé et recyclable. Ça,
okay.
On a déjà trouvé, on a déjà le fournisseur. On travaille avec le cartonnage industriel qui est pareil en Île-de-France, donc un circuit court qui travaille que en carton recyclable et recyclé.
Ok. Sur la partie production, j'imagine quand même que ça a un impact massif. En tout cas, nous, sur l'alimentation, les chiffres, ils sont très parlants. C'est 70% de l'impact, alors que le transport, tu vois, ça va être 17 à 19%. Et les déchets, ça va plutôt être moins. Comment sont produits aujourd'hui la plupart des spiritueux ? J'imagine que c'est quoi ? C'est de l'agriculture intensive ? Ça vient du bout du monde ?
Ça dépend. Il y a plein de... Alors, si on parle des énormes marques, je vais pas les citer. si on parle d'énormes marques, effectivement, oui, ça va être de l'agriculture intensive.
Tu nous as parlé du whisky William Pills, là, qui est pas cher. Pour ne pas être cher, j'imagine que la matière première...
Elle est pas chère.
Ouais.
Pour parler d'autres marques, par exemple, de Bourbon, par exemple,
ouais.
qui vont être assez catastrophiques, le Bourbon. Ils achètent leurs bouteilles en Italie, qui arrivent aux États-Unis, qui sont remplis aux États-Unis, qui sont renvoyés en Europe. Enfin, c'est catastrophique. Et ensuite, pour faire du bourbon, c'est 51% de maïs minimum. Le reste, c'est d'autres céréales. Et ça, le maïs, pour être rentable, pour pousser vite, etc., c'est bourré d'OGM. Aux États-Unis, ils n'ont pas la même conscience que nous, Européens. Et donc ça, effectivement, oui, c'est de l'agriculture intensive, bourrée d'OGM, bourrée de serres,
de
pesticides, d'éclairage artificiel pour le faire pousser nuit et jour. Enfin, voilà.
Et est-ce qu'en Europe, on a, est-ce que tu sais, la part de notre agriculture qui est dédiée à l'alcool ?
J'en ai aucune idée, pour être complètement honnête. Et j'ai même aucun ordre d'idée.
Okay.
Je pourrais pas mettre un pourcentage comme ça, non. En tout cas, y a vraiment une mouvance qui est très intéressante. Par exemple, Waterford, qui est un whisky irlandais, qui travaille en single farm. Je trouve ça super intéressant. Ils font pousser l'orge qu'ils vont utiliser autour de la distillerie, et ils vont travailler des parcelles qui sont vraiment autour de la distillerie pour récolter l'orge, le distiller, le refaire pousser, etc.
Mmh.
Donc ça, je trouve ça très, très intéressant.
Mmh. Et du coup, ça, tu nous parles ici des alternatives. Je trouve que c'est assez récent qu'on voit des alcools français, des spiritueux, je parle.
Ouais,
français et bio, ça fait une dizaine d'années max.
Alors, le spiritueux en français, ça fait quand même partie de notre patrimoine depuis toujours.
Qui est créé en France.
Ouais.
Okay.
Le cognac, par exemple.
Oui, okay,
le cognac, l'armagnac, le calvados.
Oui, bien sûr.
Qui a eu, pendant l'épidémie de phylloxéra, un gros down, mais là, qui revient très, très fort, surtout en exportation. Le cognac, c'est une eau de vie de vin. Donc c'est de l'uni blanc qui est l'uni blanc, c'est le cépage qui est récolté vers cognac du coup, et ils font du vin et ils distillent le vin.
Okay.
Voilà, donc ça c'est un spiritueux français. Et effectivement, c'est assez récent. même que pas tant que ça, que il y ait du gin français. Par exemple, le gin qu'on utilise, gin Citadel, qui est un gin qui est centenaire déjà, qui était à la base distillé à Dunkerque et maintenant à Cognac.
Okay.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui bouge, parce que la Maison Ferrand a été un peu précurseur là-dessus. Donc la Maison Ferrand, c'est eux qui vont distiller Citadel, par exemple. Il faut savoir qu'à Cognac, il y a une législation qui permet aux alambics, donc ce qui va nous servir à distiller, de tourner uniquement pendant les périodes de vendange.
D'accord.
C'est-à-dire que pendant 9 mois de l'année, les alambics ne tournent pas. Donc il y a eu toute une bataille législative pour pouvoir faire tourner ces alambics hors des périodes de vendange en produisant d'autres spiritueux. Donc effectivement, pour être du cognac, il faut distiller pendant les périodes de vendange, mais pendant les 9 autres mois de l'année, eh ben, on peut distiller autre chose dans ces alambics maintenant. Donc c'est pour ça qu'il y a une explosion aussi des spiritueux français, parce que à Cognac et dans d'autres régions, hein, on va utiliser ces périodes mortes pour les alambics pour aller prendre des prestataires qui savent eux distiller et qui vont pouvoir distiller des alcools de grains et donc faire du gin ou de la vodka ou peu importe.
Ok, mais et la partie bio, il me semble qu'elle est récente quand même, ouais. Sur ces sujets-là. Je parlais avec quelqu'un qui travaille dans le cognac, qui me disait franchement, trouver un cognac bio, c'est quand même encore extrêmement difficile. Qu'est-ce qui explique cela ?
La tendance, je pense.
Mais qu'avant, ça ne le soit pas, c'est parce qu'on se disait...
Là, comme on l'a dit en intro, les consommateurs vont s'orienter plutôt vers du bio. C'est vraiment un déclencheur d'achat.
Ok. Aujourd'hui, ça l'est plus que le... Non, pas oui. Plus que le prix, j'imagine.
Oh, les gens sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de bien fait.
Okay.
Je sens, moi, en tout cas, dans ma sphère, et après, elle est peut-être pas non plus très impartiale, la sphère dans laquelle j'évolue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui sont concernés. Mais oui, les gens sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir quelque chose de qualité. Moi, je le vois avec mes clients. Hein. Certains de mes clients travaillaient avec une autre marque de cocktail prêt à boire qui peut s'apparenter un peu à du Mister Cocktail, bourré de colorants, bourré de d'alcool neutre pour apporter la puissance. Et ils sont prêts à mettre presque 2 fois le prix pour avoir un cocktail argotier qui va être fait dans les respects des règles de l'art de la mixologie, mais aussi dans le respect de l'environnement.
Mais là, tu parles des restaurateurs, des professionnels. Est-ce que, tu vois, le grand public est prêt aujourd'hui à payer plus cher des alcools bio ?
Moi, je pense que oui. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les supermarchés. Quand on voit les explosions des Naturalia qui continuent d'ouvrir, les gens vont plutôt aller faire leurs courses quand ils en ont les moyens, bien évidemment, dans des magasins plutôt bio, plutôt qu'aller au Franprix acheter des marques qui sont faites je sais pas où.
Ouais. Sur la partie transport, justement, aujourd'hui, est-ce que tu sais où sont fabriqués l'essentiel des spiritueux ? Est-ce qu'il y en a un peu partout ? Est-ce qu'il y a des pays forts ?
Ouais, il y a des pays forts. Alors, chaque spiritueux, c'est un peu comme le champagne. Pour faire du champagne, il faut le fabriquer en Champagne. Pour faire du bourbon, il faut que ce soit fait aux États-Unis. Okay. Pour faire du straight bourbon, il faut que ce soit fait dans le Kentucky. Pour faire de la tequila, il faut que ce soit fait à Jalisco, enfin en tout cas dans l'état de tequila. Pour faire du mezcal, c'est pareil.
Ok, c'est des appellations en fait.
Exactement, c'est des AOP. Donc il y a des choses qu'on peut pas délocaliser. Mais par contre,
la vodka, on peut la faire partout, non ?
Vodka, on peut la faire partout.
Et le gin aussi.
Et le gin, pareil. Il y a beaucoup moins de législation, il y a beaucoup moins de... C'est beaucoup moins fort. Beaucoup moins protégé. Pour faire de la vodka, on a tous cette idée que la vodka, c'est un alcool de pomme de terre.
Ouais.
Alors qu'il y a quasiment plus de vodka qui sont faites à base de pommes de terre. Non, maintenant, c'est que de l'alcool de grain.
Ok, pourquoi ?
Ça doit être meilleur, ça doit être plus facile. C'est plus facile à conserver parce que c'est sec. Donc, ouais. Ça permet d'un meilleur stockage. C'est plus léger aussi. Voilà, je pense que c'est pour ça. Et puis, même en termes de profil gustatif, je pense qu'il y a plus de variété. Okay. En termes de grain, on peut utiliser du seigle, on peut utiliser du blé.
On peut utiliser ce qu'on veut.
Ce qu'on veut, ouais.
Nous, la vodka qu'on utilise,
ouais, bien sûr, c'est ce qui apporte une belle complexité aussi. La vodka qu'on utilise, c'est une vodka qui est à base de quinoa, par exemple.
Ok.
Et on a une autre vodka qu'on utilise qui est par contre 100% française.
Ok. Qui sera faite avec quoi, du coup ?
Du blé.
Ok.
Du blé bio.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a du gluten dans la vodka ?
Ça veut dire qu'il y a du gluten dans la vodka.
Ok. quelle est la priorité pour faire évoluer le secteur dans le bon sens pour toi? S'il y avait une mesure qui aiderait vraiment à transitionner davantage, ce serait quoi?
Nous, on est convaincus qu'un jour ou l'autre, le vrac sera obligatoire.
Donc la tireuse à vodka, quoi.
Un peu. Mais justement, nous, on est un des plus gros clients français d'une entreprise qui est assez en avance ou en retard, je sais pas. Mais en tout cas, on est très content de travailler avec eux, qui s'appelle Eco Spirits, qui est une nouvelle façon de distribuer et de consommer du spiritueux. Donc la Maison Ferrand justement et Fer, qui sont deux de nos gros fournisseurs, sont des clients moteurs et sont à l'origine, avec la Maison du Whisky, du lancement d'Eco Spirits en France. Donc Eco Spirits, c'est du vrac en 4,5 litres consigné. Donc ça veut dire qu'il y a plus de bouteilles, et ils font un prix très dégressif justement pour pousser les gens à aller vers ce format-là. Donc c'est du vrac en alu et en verre avec 4,5 litres de spiritueux à l'intérieur, qui est donné au restaurateur avec une consigne qui permet au restaurateur de travailler un peu ses marges, mais aussi de plus consommer de bouteilles. Donc pareil, l'autoconsigne est mise en place chez quelques restaurants en vendant une bouteille de gin par exemple. Et un bib ou un écotots, ils appellent ça, un écotots pour remplir ces bouteilles. Mmh. Donc nous, on travaille à 40% de notre approvisionnement est avec Eco Spirits. Mmh. Donc c'est assez gros. Nous, on avait comme pari d'arriver à fin 2023 à 100% de notre approvisionnement en vrac. Il y a encore quelques réfractaires. On n'a pas atteint les objectifs, mais on est très proche. On est très proche. On est à 90% à peu près. Forcément, il y a la tequila qui grince, et il y a le bourbon qui grince aussi. Ouais. Mais c'est une vraie réflexion chez nous. Si on n'arrive pas à faire changer les choses, de changer les spiritueux.
Est-ce que justement, vous arrivez à chiffrer les gains en termes peut-être de CO2 et plus largement d'impact que vous économisez via votre démarche?
Non, je lisais un article ce matin justement sur Eco Spirits, où ils ont des chiffres un peu précis là-dessus. Eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est entre 60 et 80% de moins d'émissions de gaz à effet de serre.
OK.
Donc c'est très impactant.
Ouais.
Le vrac.
Ouais.
Nous, on a été clients moteurs pour certains de nos fournisseurs aussi. Avec les volumes qu'on a, on allait les voir, on leur a dit voilà, nous on veut continuer avec vous. Vous faites des super liqueurs, mais va falloir le faire en vrac, parce que sinon on devra arrêter de travailler avec vous. C'est triste, mais nous c'est vraiment un engagement fort qu'on tient à continuer de faire prospérer.
Et comment faire évoluer les gros pour que ça bouge aussi du côté du type de production?
Ouais, il faut des clients moteurs. Il faut c'est vraiment un effet domino. Hein. Si un jour le restaurateur dit moi je ne veux plus aucune bouteille dans mon restaurant, moi je vais forcément prendre sa demande en compte. S'il y en a 1, 2, 3, 10, 20, 100 000 restaurateurs qui disent ça, les fournisseurs vont s'adapter.
Mais c'est surprenant que les gros ils aient pas mis en place la consigne, tu vois, parce que typiquement les seules consignes nous qu'on voit chez Ecotab, c'est les Coca ou ce genre de choses, parce qu'ils sont tellement de puissance qu'ils peuvent faire de la consigne.
Ils s'en foutent, je pense, pour la plupart des gros, ils veulent pas changer leur façon de travailler. Ils veulent continuer à mettre en avant la marque. La bouteille, c'est quand même la manière la plus jolie de communiquer sur un spiritueux. De voir un bar rempli de bouteilles, c'est magnifique. Mais effectivement, le vrac, pour moi, c'est pas un argument, parce que le vrac, on peut les avoir à la cave et remplir des bouteilles et garder des bouteilles dans les back-bars. Si on arrêtait de commander des bouteilles, enfin bouteille par bouteille, ça réduirait massivement la production de bouteilles.
Et sur la partie production des céréales, est-ce que les céréales qui sont utilisées pour faire de l'alcool, c'est des céréales de moins bonne qualité, dans le sens où on ne les donnerait pas à l'alimentation humaine et animale, ou c'est les mêmes céréales? Du coup, ça vient en concurrence avec l'alimentation humaine et animale?
Nous, les céréales qui sont utilisées dans nos spiritueux, dans les spiritueux qu'on utilise, sont des céréales de qualité. On est allé justement voir la maison Ferrand, qui font un travail extraordinaire. Ils font pousser des genévriers dans les champs derrière la distillerie pour faire des expériences de monoparcellaires sur de la baie de Genève pour aromatiser le gin. Donc non, je pense que la qualité de la céréale a son importance dans la distillation, si on veut faire un bon produit, bien évidemment. Mmh. Et la qualité de l'eau est extrêmement importante aussi.
Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau pour créer un spiritueux ?
Bah, c'est liquide, hein. Donc, s'il y a un spiritueux qui titre à 40%, il faut se dire que 60%, c'est de l'eau.
Donc, ça veut dire que les enjeux de sécheresse, pour vous, elles sont quand même cruciales ?
Bien sûr, bien évidemment. Ouais.
Je voudrais qu'on passe aux enjeux sanitaires. Les enjeux écologiques sont liés aussi aux enjeux sanitaires. Hormis les problèmes de consommation d'alcool dont on va parler, mais qu'on connaît quand même grosso modo, il y a aussi le fait que potentiellement, quand on boit des alcools de mauvaise qualité, on boit aussi des pesticides, comme d'ailleurs c'est le cas dans le vin ou la bière. Est-ce que c'est aussi vrai pour les spiritueux ?
Je ne sais pas. Quel effet peut avoir la distillation sur le fait de tuer ou pas ce qui était présent pendant la culture de ces céréales? C'est quelque chose qu'on a pas mal recherché, mais c'est assez opaque, à vrai dire. Par exemple, quand on travaillait sur tous les allergènes, savoir si le grain qui a été utilisé pour faire le gin a été en contact avec de la moutarde ou autre. Ah ouais. Est-ce que c'est complètement inhibé par la distillation? Je pense, parce que sinon ça serait sur toutes les bouteilles. Donc j'ai pas vraiment la réponse là-dessus, si on va retrouver effectivement le pesticide qui a été utilisé pour tuer un certain puceron sur du blé. Est-ce qu'on va le retrouver dans après distillation? Ça me paraît compliqué quand même.
Ah
parce
ouais?
que la distillation,
moi, ça me paraît évident, mais...
Ouais. Je sais pas. Je sais pas à quel point c'est impactant versus la qualité de l'eau, par exemple, qu'on boit tous les jours.
Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Sachant que tu dois utiliser de l'eau filtrée pour faire tes spiritueux ou tu peux utiliser de l'eau du robinet?
Non, c'est plutôt de l'eau filtrée qui est utilisée pour justement diluer, le spiritueux, donc une fois qu'il sort de l'alambic. En revanche, pour le brassin, c'est plutôt de l'eau classique,
ouais,
du robinet. Ouais.
Ouais. On entend souvent que le vin et la bière sont meilleurs pour la santé que les alcools dits forts, les spiritueux. Est-ce que c'est le cas, vraiment ?
Ça dépend ce qu'on entend par bon pour la santé. Je sais que la bière, c'est blindé de levure, ça fait grossir. le vin, c'est plutôt bon pour la santé. Les spiritueux, je pense que c'est vraiment une question de consommation. C'est une question de choix de spiritueux aussi. Effectivement, si on va consommer du William Peel et si on en boit une bouteille par jour.
Ouais.
Comme le vin, comme la bière, je pense pas que ce soit foufou pour
mais
la santé.
Mais le taux de sucre est quand même peut-être plus important.
L'alcool, c'est du sucre.
Ouais, ok.
Donc à partir de ce moment-là, effectivement, un alcool à 40%, c'est beaucoup plus fort caloriquement qu'un alcool à 5%.
Mais on est censé en boire moins.
Et c'est pour ça que nous, on a une démarche aussi responsable sur la consommation d'alcool. Nous, on préconise une consommation de 10 centilitres. Ce qui représente une boisson standard. Donc ça, c'est un enjeu. C'est très connu, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Ils réfléchissent beaucoup comme ça. Il y a une formation pour tout barman qui va être derrière un bar. Il a une formation de 2 jours en Australie, par exemple, pour servir responsablement de l'alcool.
Ok, mais c'est pas parce que les enjeux d'alcoolisme sont encore plus forts dans ces pays-là.
Ouais, c'est plus assumé en tout cas, je pense. Mais effectivement, nous, on a réfléchi nos recettes pour qu'un verre d'un cocktail argotier, donc 10 centilitres par exemple dû à la fraîche, ça représente 25 centilitres d'une bière classique, à peu près 14 centilitres d'un verre de vin, à peu près 4 centilitres d'un spiritueux classique, donc autour de 40% d'alcool.
Ok,
donc,
ok.
Le consommateur, le restaurateur a un marqueur très clair, 10 centilitres, tu peux conduire. 2 cocktails, tu peux pas conduire.
sur la question de la santé par rapport au cocktail, il y a des ajouts. C'est pas un alcool pur, il y a, comme tu disais, du sirop, il y a d'autres choses qui vont rendre potentiellement l'alcool plus sucré.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il y a un enjeu de santé par rapport à ça ?
Encore une fois, le monde du cocktail, c'est très large. C'est moins pire qu'un whisky coca, par exemple.
Ouais, parce que le coca, il n'y a pas beaucoup de choses qui est pire, peut-être.
L'essence, peut-être. oui, alors, l'équilibre d'un cocktail, c'est sweet, sour and strong.
OK.
Donc, sweet, qui va être apporté par un sirop ou une liqueur. Sour, qui va être apporté par un agrume, donc citron, citron vert, peut-être même acide citrique. Vinaigre. Et strong, qui va être apporté par un spiritueux et ou une liqueur aussi. Donc ça, c'est l'équilibre d'un cocktail.
Il faut qu'il y ait ces trois éléments.
Pour être équilibré. Après, il y a d'autres types de cocktails, type le Negroni,
oui,
par exemple.
Oui, j'allais dire, le Negroni, c'est pas très...
C'est pas très sour.
Non.
C'est un équilibre bittersweet.
Ah, j'aurais même dit qu'il n'y a pas beaucoup de sweet, c'est vraiment très bitter.
Ouais, c'est très bitter. Mais le vermouth, ça, c'est assez
ouais.
sucré,
oui,
c'est,
oui,
assez,
c'est, vrai, c'est, vrai,
c'est vrai. Assez rond. Mais effectivement, la sensation d'amertume... rapporte une sensation de fraîcheur désaltérante qui va couper le côté sucré. Mais au final, en taux de sucre, un Negroni, c'est assez haut. C'est un de mes cocktails préférés, d'ailleurs. Donc non, nous, en termes de kilocalories, on n'est pas super haut par portion. On est autour de... je crois qu'un whisky coca, c'est autour de 120 kilocalories. Nous, on est autour de entre 90 et 100.
Ok. Comment tu intègres, toi, justement, cette question de la santé dans ta démarche ? J'imagine qu'en tant que fabricant, enfin, fournisseur de spiritueux, tu es obligé de démontrer le fait que tu prônes une consommation responsable d'alcool,
bien sûr,
etc.
Bien sûr. La loi E20, là-dessus, ouais. est impitoyable. On le communique, en fait, directement à nos clients. Quand on vend en direct, par exemple, c'est là où c'est le plus parlant, on vend une bouteille et on dit que c'est pour 10 cocktails. Par exemple, une bouteille d'un litre, ça représente 10 cocktails. Mais le prix est élevé au final, parce que une bouteille pour le consommateur final, c'est 36 à 40 euros, voire un peu plus. Donc, on s'adresse pas du tout à une tendance de binge drinking. On est plutôt là sur quelque chose de dégustation, enfin un cocktail de dégustation, un moment à partager entre amis. On prône pas le binge drinking du tout. Mmh. Donc, on va pas vendre une bouteille de. Enfin, c'est pas comme si on vendait une bouteille de whisky qui sera 40% à 12 euros. Là, effectivement, je trouve pas ça très responsable.
Et vous avez choisi le bio, notamment aussi pour des enjeux de santé ?
Bien sûr, pour des enjeux de transparence, de santé, et on ne va pas se le cacher, pour des enjeux aussi commerciaux. Ça fait la différence dans le pitch commercial. C'est quelque chose qu'on met en avant volontiers, parce qu'on y croit, parce que ça vend. Mais il ne faut pas se le cacher, ça nous ferme aussi des marchés, parce qu'on n'est pas les moins chers du marché, loin de là. On est peut-être même un peu cher, mais parce qu'on utilise des produits de qualité. Et donc, nos clients nous suivent parce qu'eux aussi veulent faire de la qualité.
Sur cette partie, justement, prix, une étude menée par Sowine, que j'ai citée notamment en introduction, nous dit que les Français sont prêts à consommer moins, mais mieux. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu le vois ?
Ouais.
Même dans ces périodes inflationnistes ?
Oui. Nous, on se calque, en fait, sur le champagne. La consommation de champagne, ça n'a jamais été une consommation abusive. Ça a toujours été une consommation de dégustation, de moments conviviaux. Donc oui, on sent que ceux qui adhèrent, ceux qui achètent Argotier, en tout cas, sont là dans une démarche de découverte, d'une expérience, d'un échange, de dégustation. Mais on en a bien sûr des gens qui veulent se retourner le crâne, mais c'est pas du tout dans notre démarche. Par exemple, on est sur le marché de Noël de la Défense, là, on fait déguster. On a des voisins qui donnent des shots et des shots et des shots. Nous, on prône la dégustation. On demande aux clients de nous donner des mots-clés. En fonction des mots-clés qu'il va nous donner, on va lui trouver un cocktail qui va lui correspondre. Mmh. Et dans la démarche, pendant la dégustation, on prend le temps d'expliquer comment on produit, pourquoi on produit. Donc, de rentrer dans un process de faire découvrir un produit plutôt que tiens, bois. Non, on a vraiment cette éducation J'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment le terme. Cette éducation à responsabiliser aussi la consommation d'alcool, la consommation de cocktails de qualité, respectueuse de l'environnement et de certaines règles sociales qui nous sont chères.
Et le fait que ça soit prémixé, est-ce que ça diminue quand même la qualité versus on fait exactement la même recette
Alors, du coup, moi, j'ai effectivement un gros passé de barman. La qualité sera pas la même. Ça veut pas dire qu'elle est moins bonne. Ça veut dire que ce sera pas la même. Il y a vraiment l'acte du shaker qui va donner cette émulsion, cette consistance un peu spécifique. Il y a le fait que, par exemple, pour faire ce cocktail, on va utiliser un vrai concombre frais qu'on va shaker, qu'on va traiter directement. Ça va donner effectivement une consistance un peu particulière. Par contre, en termes de goût, vous serez étonné parce que l'idée c'était vraiment de recréer un vrai cocktail de mixologue dans un verre et en termes de goût, je pense qu'à l'aveugle, je me défie quiconque de me dire que c'est un cocktail qui sort d'une bouteille. C'est vraiment là où on est fort, où on fait du bon travail parce qu'on se fait chier, quoi. On se fait vraiment chier à les faire. Vraiment celui-là, on a acheté un extracteur de jus à froid, on va presser les concombres à froid, le jus on le fait couler directement dans le spiritueux pour vraiment le stabiliser, l'immortaliser, on laisse un temps de repos et ensuite on enclenche la production. Donc là on va le voir petit à petit, on a du dépôt qui va se mettre dans la bouteille parce qu'il y a vraiment de la matière, et on filtre que très peu.
On en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais te poser quelques petites questions. Je te demande de me répondre de manière très spontanée et après on conclura.
Okay.
Si tu étais un alcool, tu serais quoi ?
Du gin, je pense.
Si tu étais un cocktail ?
Un Negroni.
Ah, je m'en doutais du coup. Est-ce que tu as une technique anti-gueule de bois à nous donner ?
Pas trop boire, surtout à mon âge. J'arrive plus sinon.
Meilleure technique, je pense, en effet, ouais. Que de limiter la consommation d'alcool. Quels sont les meilleurs et les pires mélanges d'alcool pour toi ?
Le pire, c'est sans aucun doute, et le plus dangereux, Baileys Coca-Cola.
Baileys Coca-Cola, ouais, c'est un maker, rien que d'y penser. C'est beaucoup de sucre, ça.
C'est surtout, ça fait une espèce de plâtre, c'est une réaction chimique qui fait une espèce de plâtre immonde. Je crois que c'est même mortel boit ça. Oui, quasiment. Ouais.
Ok. Red Bull, non ?
Red Bull, je ne sais pas ce que c'est.
Meilleur mélange ?
Le meilleur mélange, pour moi, ça va être l'amertume, l'agrume et les herbes un peu de Provence, type romarin, thym. Ouais, j'aime beaucoup ce genre de saveur.
Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui veulent se tourner vers des boissons alcoolisées plus responsables ?
D'avoir conscience que consommer des spiritueux ou des liqueurs ou des cocktails prêts à boire de manière plus responsable, c'est aussi soutenir des gens qui œuvrent pour sauver la planète justement en faisant la fête. Et je pense que c'est une économie à soutenir, même s'il faut faire un peu d'efforts financiers.
Ouais, boire, c'est politique aussi, pas seulement manger.
Exactement.
Tu nous donnes une recette de cocktail phare pour les fêtes ?
Ouais, on en a un qui s'appelle le tire-fesse,
okay.
qui est assez rigolo. Donc une vodka bio française. Donc là on travaille avec vodka le filtre, qui est d'ailleurs révolutionnaire sur son packaging. Première bouteille à base de déchets de verre, super intéressant. Deux triples secs différents, donc le triple sec de chez Fer, qui est un triple sec de Kemquat. Un triple sec de la maison Ferrand, qui est un triple sec qui est un peu plus sur les notes d'orange confite, qui est incroyable, une vraie infusion d'orange amère dans du cognac. Et là, on va faire un petit sirop de spéculoos, donc avec les épices de spéculoos, donc gingembre, cardamome, clou de girofle, cannelle, anis étoilé et jus de citron bio. Ça, c'est un cocktail qui peut être bu chaud comme froid et qui va développer un peu plus les épices sur la version chaude. Et qui va développer un peu plus la vivacité, l'acidité quand il va être bu sur glaçon.
Où est-ce qu'on peut l'acheter, ce cocktail ?
Chez nous.
Où, c'est où, chez vous ? C'est sur Internet ?
Ouais. Alors ça, c'est une édition spéciale au marché de Noël de la Défense, par exemple. Vous pouvez venir nous voir et on le vend, on, dans le vent là.
Et est-ce qu'on peut, pour tous nos auditrices et auditeurs qui sont hors de, loin de la Défense, est-ce qu'ils peuvent acheter sur Internet, vous pouvez le faire ?
Alors, on ne vend pas en direct en B2C.
D'accord.
On a, sur notre site, on a une liste de nos revendeurs cavistes.
Ok, très clair. Là, tu nous as donné une recette de cocktail qui est infaisable. Pour les gens du commun des mortels, est-ce que tu nous donnerais une cocktail
plus faisable,
ouais, plus facilement faisable pour les personnes qui vont avoir tu sais, les classiques quoi.
Ouais, mais ça voudrait dire acheter un sirop tout fait. Moi, je suis pas fan des sirops tout faits.
Mais on peut faire son sirop. Ouais, allez, on fait son sirop.
Ok, on fait son sirop. Allez, c'est parti. Donc, on va faire infuser, 5-6 bâtons de cannelle dans un litre d'eau. Il faut les faire infuser à peu près une demi-heure. On va rajouter à peu près 400-500 grammes de sucre par litre d'infusion. Et là, on va avoir son petit sirop de cannelle. Avec ça, on va se mettre un peu de rhum. Vous voulez les centilitres de rhum? Allez, on va se faire 4 centilitres de rhum. On va se faire 10 centilitres de sirop de cannelle. On va se faire 2 centilitres de triple sec de la Maison Ferrand et on va se mettre 2 centilitres de citron jaune. Ouais.
Merveilleux, voilà.
Exactement.
J'ai une question qui sort un peu là, du lot, mais qui me vient tout d'un coup. Tu sais, il y a pas mal de personnes qui font leur propre alcool. Je pense à des gens qui font du vin de sureau, qui font du vin de noix, etc.
Ouais, ouais.
Et tu as besoin souvent d'alcool de fruits. Et c'est impossible de trouver de l'alcool de fruits bio.
C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on discute avec un gars qui fait ça. On est en train de discuter avec lui, donc je peux pas vous donner le nom, mais ça commence à exister, ça commence à éclore. C'est vrai que sur les liqueurs, vu qu'on est un pays très historique en termes de liqueurs, c'est peut-être un des plus gros pays mondial, la France, en termes de production de liqueurs. On a plein de liqueuristes qui sont multicentenaires. Ils sont même parfois déjà bio, mais ils ont pas les agréments, quoi.
Ah ok.
Ouais.
Ok, c'est pas parce que c'est des fruits de mauvaise qualité quand même. J'imagine que c'est pas les mêmes fruits que ce qu'on.
Non, c'est même des fruits de très bonne qualité.
Ah bon?
Ouais, ouais. Nous, la liqueur d'abricot qu'on utilise, par exemple, c'est des fruits d'extrêmement bonne qualité.
Mais je pensais, tu sais, à l'alcool de fruits où t'as, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange que t'as les déchets des fruits et puis
les alcoolisés. Oui, je pense que ça sert à rien d'avoir des beaux fruits pour faire par exemple une eau de vie de Mirabelle.
Ouais.
Mais pareil, ça c'est multicentenaire. Donc effectivement, c'est des maisons familiales qui ont même pas forcément les moyens d'aller tout restructurer pour avoir le tampon bio. C'est vrai que le bio, c'est bien, mais à certaines personnes qui travaillent déjà très bien sans être bio, en respectant la terre, en respectant le fruit, en respectant pardon le fruit. Donc ouais, le bio, c'est bien, mais c'est pas un must. J'ai envie de dire, je préfère connaître le distillateur, savoir qu'il travaille bien, plutôt que acheter du bio que je connais pas.
Ouais. Après, pour le grand public qui ne va pas forcément rencontrer le distillateur,
c'est vrai.
Ça peut être un marqueur.
Mais c'est pour ça qu'il faut que les gens communiquent dessus. Mais ça coûte de l'argent de communiquer dessus. Donc ça passe par une éducation au goutte à goutte, et faire découvrir ce qui est bon, ce qui est pas bon.
Ouais. C'est quoi tes futurs projets?
Justement, là, on a dans les pipes un cocktail sans alcool.
Cool.
Ouais, on a dans les pipes cocktail sans alcool. On va en lancer un.
Tu peux nous donner un peu la recette ou pas?
Ouais. On va en lancer un qui va être déjà 100% dans un rayon de 150 km à partir du centre de Paris.
Okay.
Donc complètement en circuit court. Ça va sûrement être quelque chose qui va tirer sur le verger un peu, que c'est saveur fraîche que j'aime beaucoup, donc pommes, poires et fleurs de sureau par exemple, qu'on va trouver tout ça dans un rayon de 150 km de l'Île-de-France. Pas de colorant, pas de conservateur toujours, donc là on va utiliser plutôt la pasteurisation.
Et comment t'amènes le côté bitter justement, qui fait croire que c'est un cocktail et pas un jus de fruits?
Alors là, il y aura pas de côté bitter sur celui-là, ça va être plutôt du sweet sour.
Ok.
Ouais, ça va plutôt être du sweet sour et on va pas faire un faux spiritueux. Moi, je trouve ça un peu, c'est mon avis, hein, c'est très personnel. Honnêtement, du gin sans alcool, je trouve ça très peu intéressant parce que en vrai, si tu veux un gin tonic sans alcool, t'achètes un bon tonic, tu mets une goutte essentielle, une goutte d'huile essentielle de genièvre, et t'as un gin tonic sans alcool. Donc au final, ça marche très bien.
Bon petit cocktail pour ceux qui ont envie de limiter l'alcool pendant les fêtes.
Donc ça, c'est un projet, et après on a comme projet vraiment d'aller au plus proche de notre matière première, c'est-à-dire de peut-être un jour aller distiller.
Ok, cool.
Voilà.
Est-ce que tu as un conseil de lecture ou de film que tu as envie de partager en ces temps de repos post...
Un film que j'ai envie de partager, moi je suis terrible en film. Moi, j'aime bien les trucs extrêmement déprimants, genre Oppenheimer, j'ai adoré.
Okay.
Mais ça donne envie de se suicider prendre, après, voilà. après le cinéma. Ouais, j'aime bien Tarantino, j'aime bien ce genre de film.
Une mesure que tu souhaiterais souffler au gouvernement pour une alimentation plus durable?
Ah oui, j'en ai une. Augmenter la TVA sur tous les produits de binge drinking, sur tous les produits mauvais pour la santé.
C'est pas déjà le cas? C'est pas comme le tabac?
Bah, un Kinder, la TVA...
Ah oui, non, c'est le Kinder, ouais. Mais je pense à l'alcool.
À l'alcool, oui, on est sur de la TVA à 20%, mais je trouve ça très bien qu'ils aient baissé la TVA, et même c'est le minimum sur les produits d'hygiène féminin, par exemple. Moi je suis pour augmenter la TVA sur des produits qui sont mauvais pour la santé. Ils le font, voilà, c'est ça, ils le font sur la cigarette, ils peuvent le faire sur autre chose.
Ouais.
Que ce soit plus cher de mal se nourrir que de bien se nourrir.
On est bien d'accord. À bon entendeur. Merci beaucoup Lucas.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.